La course relais de l'information sportive, c'est sur Radio Okapi. Nanambala, au démarrage, passe le relais à Dieudonné Kabeya Ngalula, qui fonce vers le micro et le passe à Khalif Mukongo Chambouille. Il fonce, et se trouve en tête à la sortie du virage où Tessan Moulumbala attend. Les 100 derniers mètres sont parcourus sans encombre et... Victoire. Le 400 mètres relais de la formation sportive, c'est tous les dimanches, à partir de 15h, heure de Kinshasa.
Guy Mantango assure la mise en onde de cette émission réalisée par Tati Mapoku. Voilà, donc on estime que Guy Mantango sera remplacé d'ailleurs dans quelques instants par Alain Ngoy. Et Marcel Ngombo assure la coordination de cette émission supervisée par Nicole Naka au micro. J.R. Lungembo. La circulation des camions transportant des produits pétroliers et leur stationnement prolongé sur la place publique peuvent être une source de danger pour la population. C'est le cas de la tragédie survenue à Sangué, au sud Kivu, après explosion d'un camion-citerne rempli d'essence. Comment prévenir les risques liés au transport des produits pétroliers? Nous avons, comme je l'ai dit, nos invités qui sont déjà dans ce studio. Nous commençons par M. Georges Moukoma, qui est président de la Commission nationale des pétroliers. M. Georges, d'entrée de jeu, existe-t-il des normes pour toute circulation des camions transportant des produits pétroliers en RDC?
Oui, les normes existent. C'est pour ça, d'ailleurs, nous sommes avec toute une équipe de spécialistes en la matière qui peuvent aider à les comprendre au cours des émissions comme celle-ci de sensibilisation.
Alors, d'entrée des jeux aussi, quels sont les dangers qu'on peut déceler au niveau des hydrocarbures?
Pour comprendre les dangers au niveau des hydrocarbures, je pense qu'il est important de comprendre ce que nous appelons communément dans les secteurs les triangles de feu. Un triangle de feu, comme on dit triangle, donc il y a trois sommets, trois éléments. Pour qu'il y ait feu, ces trois éléments doivent être réunis. D'une part, il faut qu'il y ait du combustible. Combustible, ça peut être un gaz, un liquide, ou quelque chose à l'état solide. Deuxième élément du sommet, il faut qu'il y ait un comburant. Et ici, en l'occurrence, c'est l'oxygène. Et l'oxygène est toujours présent. Troisième élément, il faut qu'il y ait une source d'activation. C'est cette source d'activation qui peut donner l'étincelle. Ça peut être l'étincelle, mais ça peut aussi être un feu ouvert. Donc, un feu qui est clairement, que les gens voient, qui est feu, fait de bougies, fait d'allumettes et tout. Mais qui peut aussi être un arc électrique. Et ça, c'est important parce qu'en fait, c'est souvent aussi la partie que les gens ignorent. Mais un arc électrique est une source d'activation de feu. Et ça, des exemples, c'est par exemple le portable. Vous verrez souvent dans les stations, on interdit l'utilisation de portable dans un milieu comme celui-là. Et enfin, donc, vous avez des charges électrostatiques qui sont donc certaines matières en synthétique, comme les chemises en nylon, comme les emballages en plastique, et qui sont en fait des contenants très importants qui peuvent amener cette charge électrostatique. Donc lorsque ces trois éléments, combustible, comburant, source d'activation sont réunis, eh bien les conditions sont là, le risque est énorme pour qu'il y ait des déclenchements de feu. Dans tous les exemples qu'on prendra, on se rendra compte qu'il y a eu à chaque fois ces trois éléments et que c'est important de connaître.
Et pour le cas de Sangué, qu'est-ce qui s'est passé concrètement?
Pour le cas de Sangué, si vous permettez, notre expert pourrait peut-être développer pour vous montrer justement comment ces trois éléments ont été mis en action.
Et voilà, donc nous accordons directement la parole à Honoré Malakani, expert de la profession pétrolière, pour nous expliquer, pour éclairer un peu la lanterne des auditeurs aujourd'hui, et qu'est-ce qui s'est passé concrètement à Sangué.
Si vous me le permettez, je voulais compléter le président Moukouna sur votre première question. En fait, il est important de savoir ici qu'il existe la norme ADER. La norme ADER signifie accord européen relatif au transport international des matières dangereuses par route. C'est une norme internationale décrivant les règles à suivre pour sécuriser l'activité de transport des matières dangereuses. Et vous devrez également noter que plusieurs pays ont déjà ratifié cette norme. Et donc, il n'est pas déjà mauvais que certains
et la RDC.
La RDC n'a pas encore ratifié cette norme. Mais il y a déjà, jusqu'en 2009, en tout cas, 45 pays qui ont ratifié la norme ADR. Et dans les 45 pays, il y a également des pays africains. Je voulais également que vous puissiez savoir qu'il existe une association pour la prévention des risques liés au transport d'hydrocarbures, qu'on appelle APTH. Et donc, tous ces instruments existent pour nous donner les règles techniques.
Mais parce que nous n'avons pas ratifié, nous travaillons sur quel instrument juridique ?
Mais il existe au niveau de notre pays une législation en matière de transport, et donc l'instrument existe.
Donc nous nous référons à la législation congolaise.
Effectivement, c'est la législation congolaise qui, si vous voulez bien, régularise ou fait la régulation en matière de transport des produits dangereux.
Alors, parce que nous parlons de la législation congolaise, est-ce que tout le monde peut exercer l'activité de transport des produits pétroliers à RDC?
Non, mais je pense que...
N'importe qui, quelqu'un qui peut, c'est pas moi, tomber comme un cheveu dans la soupe.
Non, je pense que celui qui peut exercer l'activité de transport, ça doit être des opérateurs démontrant d'abord une expertise éprouvée dans cette activité, dans le respect de la législation en matière d'abord, dans leur capacité de veiller aux règles de sécurité en matière d'hygiène, santé des personnes, du public et la protection de l'environnement. Mais également des opérateurs qui peuvent utiliser des véhicules qui répondent à certaines normes de conformité aux standards internationaux pour le transport des hydrocarbures. Et enfin, des opérateurs qui s'engagent à présenter des fiches techniques pour prouver de la conformité de leurs véhicules pour le transport des hydrocarbures. Mais aussi, au niveau fondamental, il faut noter que pour exercer cette activité, il faut une formation de base. Et de quoi s'agit-il ? Eh bien, initialement, il faut avoir une formation sur les prescriptions générales de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses. Parce qu'il n'est pas concevable d'exercer l'activité sans être au courant de la législation. Deuxième, une formation sécurité qui traite des risques et dangers des hydrocarbures et les moyens d'intervention. Il doit être au courant quand il manipule un produit aussi dangereux de savoir comment intervenir en cas de sinistre. Et enfin, en tant qu'opérateur, il y a une formation sur les procédures à suivre dans la manutention de ce produit. Et donc, voilà un peu les conditions pour exercer ces métiers.
Oui, avant de revenir à vous, M. Georges, M. Lexner, dites-nous un peu, parce que selon certains observateurs, 60% des accidents aujourd'hui, des TMB, donc des transports de matières dangereuses, concernent des liquides inflammables. Donc là, on peut parler des carburants, de l'essence, et puis d'autres produits de ce genre. Est-ce que cela est vrai ? Aujourd'hui, 60% des accidents que nous remarquons au niveau des transports de matières dangereuses sont liés au transport des produits pétroliers.
Bon, ce n'est pas comme ça que je vois la chose. Moi, je vois la chose d'une autre manière, c'est-à-dire que la grande majorité aujourd'hui des accidents de circulation, 85%, eh bien, ils proviennent des accidents de circulation, c'est-à-dire des transports. Et dans ces transports, il y a effectivement les produits pétroliers. Et donc là, il y a un problème de prévention.
Alors, quelles sont les causes des accidents de transport des hydrocarbures ?
Bon, les causes, je crois que le président peut introduire sur les causes. Je pourrais qu'on le complète.
Oui, en fait, pour revenir aux causes des accidents de transport, il faudra les voir à quatre niveaux. Le premier niveau, c'est le comportement du chauffeur. Je crois que notre expert a insisté sur ce qu'il faut pour exercer l'activité de transport. Donc, cela va influer sur le comportement du chauffeur. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le niveau de l'organisation du travail. La chose doit être organisée correctement. Le troisième niveau, c'est le niveau du matériel. Donc, en l'occurrence ici, le camion qui est utilisé, et en est un élément. Et enfin, le quatrième niveau, c'est le niveau de l'environnement. L'état de la route, le code de la route, le respect du code de la route, le comportement des autres usagers de cette route, tous ces éléments construisent l'environnement et est important dans les considérations de cause des accidents. Donc voilà un peu ce qu'il y a, donc comportement, organisation de travail, matériel et l'environnement dans lequel donc le véhicule va se mouvoir.
Oui, monsieur Georges, est-ce qu'il y a des indications particulières pour tout camion qui circule transportant donc des produits pétroliers? Est-ce qu'il y a des indications pour aider peut-être la population à savoir qu'il y a des camions transportant des produits et qui constituent aussi un danger pour elle?
La sensibilisation. La sensibilisation, c'est important. Parce que je crois l'avoir dit une fois ici, nous avons
tout à fait, on a fait la manipulation de produits pétroliers.
De pétrolier, et on a dit que dans la ville, nous avons un certain nombre de stations-service au travers de la ville. Nous avons des camions-citernes qui vont livrer des produits dans ces stations-service. Mais lorsqu'on prend, pour ne prendre que le niveau de l'environnement, il y a ce comportement des chauffeurs sur la route. On voit des chauffeurs taxi-bus qui vous dépassent à gauche, qui dépassent à droite, et qui font ces jeux-là, même vis-à-vis des camions-citernes. Et donc ça, c'est un danger important. Je voudrais, c'est ça, juste pour besoin d'illustration, signaler que un seul litre d'essence, donne, en termes de vapeur, 200 litres de vapeur d'essence. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque nous avons un camion citerne sur la route et que ce camion transporte 40 mètres cubes, c'est-à-dire 40 000 litres, eh bien, sa correspondance au niveau de vapeur, c'est 40 000 fois 200, ça fait 8 millions de litres de vapeur. Donc, suffisant pour couvrir tout un quartier. Alors, vous imaginez que le vapeur d'essence, on vous a dit tout à l'heure, il nous faut un combustible pour avoir le feu. Donc, lorsqu'il y a un camion qui est mis en cause dans la circulation, 40 000 litres, couvre 8 millions de litres, c'est-à-dire tout un quartier en combustible, l'oxygène est toujours présent. Donc là, l'étincelle, il ne faut pas qu'il soit là où il y a le camion. L'étincelle doit être dans le quartier. N'importe où dans le quartier, eh bien, c'est suffisant pour ramener le risque d'incendie. Donc c'est pour ça, lorsqu'on se trouve sur la route avec des camions citernes qui vont en livraison dans des stations-service ou ailleurs, les autres usagers doivent avoir un comportement.
Voilà, on saura quelle attitude à tenir devant un camion transportant des produits pétroliers, mais nous rappelons d'abord à nos auditeurs qu'ils peuvent également intervenir au cours de cette émission et surtout nous faire parvenir leurs préoccupations au 081 890 63 94, et s'ils peuvent nous faire des SMS, composez le 081 070 20 50.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, heure de Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient, de lundi à vendredi de 11h à 12h, et mercredi de 10h, heure de Kinshasa.
Nous avons en ligne Rabbi Kilo de Kinshasa. Bonjour, monsieur Rabbi.
Bonjour, Julien.
Quelle est votre préoccupation?
Ouais, monsieur, c'est une petite préoccupation, mais je voulais savoir si un camion citerne qui transporte des carburants est stationné quelque part. Et vous avez votre téléphone, vous venez, vous appuyez sur les camions et vous conversez en téléphone. Est-ce qu'il y a un inconvénient, est-ce qu'il y aura un danger sur ça? C'est tout ce que j'ai eu comme
question. Merci Rabbi, monsieur Georges. Est-ce qu'il y a un tel danger quand vous appuyez sur un citerne qui transporte les produits pétroliers et vous êtes au téléphone en train de répondre à un coup de fil?
Oui, c'est pour ça, en introduction, on a commencé par parler du triangle de feu. Donc il faut, à tout moment, avoir à l'esprit les trois éléments. Un camion est en stationnement. Y a-t-il, dans l'environnement de celui qui utilise le téléphone, y a-t-il un combustible? Oui, le combustible est dans les camions. Et il faut savoir que ce n'est pas nécessairement le liquide, essence, carburant qui déclenche le feu, mais c'est le gaz, essence, c'est sa vapeur. Donc le camion peut être en stationnement. S'il y a de fuite de vapeur au niveau du camion, donc le combustible est présent là où la personne se trouve avec son téléphone. Deuxième paramètre, l'oxygène, il est toujours là. Donc, ça signifie que le téléphone à l'utilisation, s'il crée un arc électrique, eh bien, le fait partir. Bon, maintenant, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, j'étais tel jour, j'ai vu des amis à côté d'un camion, ils utilisaient le téléphone, rien ne s'est passé. C'est vrai, rien ne s'est passé. Ce que nous disons, c'est le risque. Les conditions sont réunies pour avoir le feu. Bon, donc là, il faut faire attention. Ça peut déclencher à ce moment-là. Si ça ne déclenche pas, c'est peut-être parce que toutes les conditions ne sont pas dans une situation optimale pour le faire.
Mais on remarque qu'il n'y a que deux indications. Soit on interdit les téléphones et puis le feu. Donc la cigarette barrée donc au niveau des stations. Mis à part ces deux éléments, est-ce qu'il y a d'autres qui peuvent également être une source d'activation, une source qui peut provoquer un accident?
Oui, avec votre autorisation, notre expert pourra aller beaucoup plus en détail par rapport à ça.
Mais voilà, alors on y va avec Honoré Malakani.
Ah oui, donc le principe,
je crois, mis à part la cigarette et le téléphone, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent constituer les dangers?
Oui, par exemple, l'électricité statique. Et peut construire des dangers. Vous savez, l'électricité statique a pour origine le flottement des corps solides, liquides ou gazeux qui provoquent des sons d'électrons. Et les corps qui donnent les électrons se chargent positivement et prennent le potentiel positif. Et le corps qui reçoit les électrons se charge négativement et prend le potentiel négatif. Et donc, deux corps qui ont une différence de potentiel, quand ils se retrouvent en contact, peuvent produire un arc électrique. Et donc, ce flottement, mais il est à tous les niveaux. Quand l'homme circule, il y a fortement des satunies avec l'air, et donc il est chargé. Et donc, c'est déjà dangereux à ce niveau-là, si dans un milieu où il y a des vapeurs d'hydrocarbures, on y accède sans avoir une tenue appropriée. Mmh. Également, il y a des solutions pour cela, et donc il faut évacuer ces charges électrostatiques. Mais je vous dis que les bidons en plastique, par exemple, ne permettent pas cette évacuation. Et donc, c'est des emballages extrêmement dangereux qui favorisent l'accumulation des charges électrostatiques est donc dangereux pour l'environnement et pour les pétroliers. Et donc, il y a ce problème de l'électricité statique, il y a le problème des tenues, si vous voulez, pour ne pas provoquer cette énergie électrostatique. Et donc, si vous voulez, il y a un problème de comportement.
Oui, mais c'est ce qu'on ne comprend pas pour le cas de Sangui, par exemple. Il n'y a pas eu explosion, il n'y a pas eu incendie à la minute. Donc, quelques heures plus tard, qu'on a dû, après que la population ait déjà eu suffisamment de temps de profiter, de piller, d'emmagasiner, de stocker l'essence quelque part, et l'explosion, ça l'est suivi juste après. Alors, qu'est-ce qui a fait que cette explosion est arrivée en retard? Est-ce que, bon, finalement, on comprend rien?
Ok, ce qu'il faut d'abord, qu'est-ce qui s'est passé à Sangui? Il y a eu accident de circulation. Après accident, il y a eu déversement de produits. Après déversement, il y a eu création d'atmosphère explosive. Mais vous devez distinguer une chose. En matière d'accident, il faut distinguer les causes de l'accident et les causes des conséquences. Les conséquences ici, c'est quoi? C'est des personnes brûlées. Les causes des conséquences ne sont pas les mêmes que les causes de l'accident. Les causes de l'accident ici est liée au problème de conduite, qui peut être lié aux causes que M. Mokouna a données, liées au comportement, à l'organisation, aux équipements, et à l'environnement et au matériel. Mais la cause des conséquences, c'est-à-dire les personnes brûlées, c'est bien une autre cause.
Oui, parce que j'imagine un camion qui s'est renversé, et il y a eu le produit pétrolier s'est déversé.
Ok.
Alors la population devait déjà se mettre sous leur garde en disant bon, on peut pas amener le feu tout peu de ce produit pétrolier avec risque que ça puisse constituer l'explosion. Alors à ce niveau, on ne comprend rien. Qu'est-ce qui s'est passé par après? Il y a eu cette explosion. Est-ce que ce produit était en contact avec une source d'activation? C'est là où on ne comprend rien.
Enfin, il faut noter d'abord. En matière d'accident, quand un accident arrive, il y a trois actions immédiates à prendre. La première action, c'est protéger. La deuxième action, c'est alerter. Et la troisième action, c'est secourir. Et maintenant, au niveau de protéger, c'était quoi? Mais comme il y avait déversement de l'essence et puis formation d'atmosphère explosive, il fallait
délimiter un périmètre de sécurité et dans ce périmètre évacuer les personnes humaines, donner des conditions strictes de ne pas produire du feu ouvert ou d'avoir des appareils qui peuvent entraîner le troisième élément.
Donc, si je comprends bien, au niveau de la population, il ne faut pas que cette dernière puisse courir quand il remarque un tel accident. Il faudrait qu'il s'éloigne d'aller le plus loin possible.
En tout cas, il faut s'éloigner et c'est là l'aspect protégé. Il faut s'éloigner et ne peut protéger que celui qui est conscient des risques et des dangers. Celui-là va protéger. Après la protection, il faut alerter. C'est-à-dire informer les personnes avisées qui peuvent déclencher ce qu'on appelle une cellule, par exemple, de management des crises pour piloter la crise.
Donc, on est de croire que c'est l'occasion ou rien, il faut en profiter, il faut suffisamment prendre du pétrole pour s'enrichir, tout en s'exposant, parce que là, c'est vraiment un danger. Le contact avec le produit pétrolier, les produits inflammables, c'est dangereux, monsieur Moukoma.
Oui, c'est absolument dangereux. Mais je voudrais revenir à l'illustration que je faisais tout à l'heure en disant qu'un litre d'essence donner 200 litres de vapeur d'essence. Pour revenir au cas des cinglés, bon, on ne va pas participer aux enquêtes, mais il faut avoir quand même à l'esprit que lorsque le produit s'est déversé, il y a ce que le collègue a appelé l'atmosphère explosive.
Mm-hmm.
Mais cette atmosphère est toujours dans cette relation de 1 litre, 200 litres.
Tout à fait.
Donc, qui va se retrouver au-delà du lieu où s'est produit l'accident. Donc, ces gens qui prennent le produit, peut-être eux n'ont pas nécessairement l'élément source d'activation. Mais la source d'activation peut être ailleurs. Dans ce champ explosif qui est constitué.
Alors, une autre question de curiosité, M. Georges, quels sont les endroits aujourd'hui interdits de circulation, aux citernes de transportant des produits pétroliers? Parce que nous remarquons aujourd'hui à Kinshasa, par exemple, des citernes qui, disons, circulent dans n'importe quelle, sur quelle artère, et prennent n'importe quelle direction, là où même des endroits exigus. On remarque qu'il y a quand même des citernes qui passent. Parce que c'est autorisé.
Au-delà de l'aspect autorisation, c'est la question que vous avez posée tout à l'heure, qui peut exercer l'activité de transport? Parce que celui-là connaît les normes et les règles, quels que soient les endroits où on peut se trouver. Donc, en fait, le plus important, c'est qui doit faire cette activité. Plus que si c'est exigu, si c'est... Lorsqu'on connaît, on a un comportement tout à fait responsable par rapport à ces choses-là.
Oui. Voilà. Alors, on revient encore sur cette formation, parce qu'il y a deux réactions des auditeurs. On prend rapidement. Ignace Ndala de Colosi, bonjour.
Ma préoccupation est celle-ci. Hein. Il y a des stations d'essence à travers nos cités. Et maintenant, lors du transvasement, parce que les camions citernes viennent transvaser les carburants, il y a l'atmosphère d'explosion qui se prépare, si j'entends bien l'invité. Quelles précautions doivent prendre les personnes habitant les environs? Et puis, une deuxième préoccupation, y a-t-il des risques lorsque le camion citerne passe sous les lignes à moyenne ou à basse tension?
Voilà, deux questions de Ignace de Colosi, et puis John Lemeigo de Bukavu. Bonjour John.
Ouais, je vous écoute, bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Moi je suis à Bukavu, nous avons un problème de parking ici. Les camions qui arrivent de l'étranger, ils passent des jours et des jours sur la route. Et sur la route, moi, je travaille dans la Bralima Bukavu, et c'est juste en face de l'usine où se trouve la tête où ces camions viennent stationner. Il y a la population autour et tout le reste. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Parce que j'ai entendu notre intervenant, il a parlé de la sensibilisation. Moi, je crois que les gens à sensibiliser, ce sont les gens de l'OFIDA et de la tête qui font arriver ces camions pour les usages. Si un accident arrive, c'est elle le premier responsable. Comment est-ce que notre invité peut conseiller nos gens de l'OFIDA et de la CEP pour qu'ils libèrent ce camion avant, vite ou vite, pour qu'ils ne puissent pas nous poser ce qu'on a connu à Bangui?
Voilà, je sais que la FEC est mise en cause, M. Georges. Vous, en tant que président de la Commission nationale du pétrole, aujourd'hui, on remarque, tout en connaissant, en reconnaissant quand même, il y a des normes, mais la FEC, au niveau de Bukavu, permet à ce qu'on puisse stationner même les citernes devant, là où il y a la population.
Oui, C'est vrai que le stationnement dans ces conditions-là n'est pas toujours...
Pendant des heures et des heures.
Ce n'est pas toujours...
C'est exposé à la population.
C'est exposé. Mais je reviendrai toujours au respect, disons, de normes et à l'exercice de l'activité par des professionnels et des gens formés. Lorsque, au niveau du comportement du chauffeur, parce qu'on vous a dit que les causes de l'accident, il y avait plusieurs niveaux, prenons le chauffeur. Lorsque c'est un chauffeur professionnel, formé et connaissant les normes en la matière, dans ce stationnement imposé, il va avoir un comportement. Il peut déjà lui-même faire une démarche vis-à-vis des, ces gens de, des agents de l'OFIDA et autres pour dire que non, je ne peux pas me mettre dans cette condition, je ne peux pas rester plus longtemps, par exemple par rapport à tel ou tel facteur. Donc à ce moment-là, ils sont aussi maîtres de cette sensibilisation et autres. Mais est-ce que tous les chauffeurs qui se présentent à ce point de frontière sont-ils des gens professionnels, formés et connaissants des normes? Les équipements qu'ils amènent, les camions qu'ils amènent, est-ce que ces camions remplissent-ils les conditions qu'il faut pour faire ce type d'activité? Donc, en fait, nous nous trouvons dans les cas évoqués par,
Ignace,
nous nous trouvons dans un cas où, si ce n'est pas un professionnel de la matière, le risque est réel, il saura ni sensibiliser les gens de l'OFIDA, ni refuser au fait de mettre en danger tout ce contour, et son équipement met en danger tous les...
Il y a ce qui a parlé également des lignes de haute tension, voilà, la population, tout ça, les lignes de haute tension, aujourd'hui, est-ce que les camions citernes peuvent passer et là où il y a le passage de courant avec la ligne de haute tension?
Attends, donc moi je voulais prendre vos questions dans l'ordre où les autres étaient posées là-bas. Donc, la première question que je trouve importante, c'est que quand un camion citerne fait les transvasements au niveau de la station, quelles sont les précautions à prendre par les habitants environnants? C'est la première question. Mm-hmm. Mais la première chose d'abord qu'il faut noter, c'est qu'une station, c'est une installation pétrolière. Et donc, pour construire une installation pétrolière, il y a des normes. Il y a d'abord ce qu'on appelle un plan d'étude d'impact. C'est-à-dire, il faut faire un exposé des nuisances de l'activité pour l'environnement. Et puis deux, il faut un plan d'étude des dangers, c'est-à-dire que recenser tous les dangers potentiels liés à l'activité. Mais trois, il y a aussi à gérer l'espace autour du site. C'est-à-dire là, c'est un problème de respect de l'environnement. Donc déjà, il n'est pas normal si tout autour de la station, sans respect des distances de fait, qui est les habitations. Ça, c'est déjà une première chose. Alors, deuxième chose, c'est que quand un camion citerne est en dépotage, on est dans une opération à risque. Et donc là, il y a des dispositions déjà au niveau de la station de créer un périmètre, de baliser un périmètre de sécurité. Il faut qu'on arrête les livraisons. Il faut que les autres chauffeurs qui viennent arrêtent leur moteur, parce que le moteur de l'autre voiture là-bas, quand l'échappement n'a pas de pare-flammes, peut provoquer des étincelles. Et donc, il y a une disposition à prendre déjà au niveau de la station. Pas de fumeurs, arrêter les activités. Et donc, c'est la première disposition à prendre pour les personnes environnantes. On considère, si la distance des faits a été respectée, moi je ne vois pas de risque parce qu'ils sont à une distance suffisante.
Mais pour des citernes, le problème ne se pose pas. Mais s'il s'agit d'autres camions, disons d'autres camions qui ne sont pas des citernes, par exemple, comment la population peut reconnaître ou peut identifier un camion transportant des produits pétroliers? Parce que sous d'autres essieux, nous remarquons, il y a des plaques oranges où on met avec des indications pour dire à la population, attention, ça peut prendre feu. Et chez nous, comment reconnaître un camion qui n'est pas un citerne, un camion citerne?
Ah, mais vous avez raison, parce que là, vous entrez dans... Vous avez posé s'il y avait des normes. Effectivement, au niveau des normes, il y a ce qu'on appelle l'étiquetage. Eh bien, un camion transportant des matières dangereuses doit être étiqueté. Et dans cet étiquetage, il doit y avoir des chiffres.
Code de danger.
Oui.
Un code indiquant les dangers.
Oui, il y a un chiffre qui détermine d'abord la matière transportée, et puis il y a un chiffre qui donne la nature du danger de matière.
Tout à fait.
Et donc, déjà, un camion citerne qui circule sans cet étiquetage, sans cette signalisation, il y a déjà un problème.
En France, par exemple, on met 33, si, pour dire 33, c'est le produit pétrolier, le produit dangereux, mm-hmm. et 6, on met soit le feu que le.
Explosif, inflammable, corrosif, donc c'est.
Et chez nous, c'est la même chose.
Non, non, chez nous, en tout cas, plusieurs entreprises respectent ces chiffres-là. En fait, c'est le même chiffre, parce que c'est des chiffres qui sont déterminés par les normes
internationales,
les standards universels. Donc chez nous, c'est un député que je connais, respecte ces normes-là, mais il faut que tout le monde respecte. C'est vrai, il y a beaucoup de véhicules qui circulent sans ces signes-là.
Et donc là, donc, si jamais ce n'est pas un camion citerne, nous remarquons qu'il y a une plaque spécifique où il y a des chiffres, on peut directement identifier qu'il s'agit là d'un camion transportant des matières dangereuses.
Oui, c'est vrai, mais alors là, il y a un problème aussi, parce qu'il faut que la population soit capable de déchiffrer la signification de cela. Mais du moins, disais, quand il y a déjà le code de danger, on peut déjà voir inflammable, et la population comprend.
Alors, M. Georges, donc si je comprends bien, en réalité, on peut prévenir les risques.
Absolument. Absolument, on peut prévenir les risques.
Et voilà, donc comment la population doit se comporter pour effectivement assainir le milieu et prévenir ces risques.
D'une part, pour la population, c'est de faire ce que fait Radio Capi, c'est-à-dire en invitant des experts en la matière pour passer un message de sensibilisation afin de permettre aux gens d'avoir des comportements responsables. Donc la sensibilisation, c'est important. Je crois, si vous permettez, je crois que notre expert a été en contact avec des organisations de sensibilisation à la matière. Je crois que ce type d'activités sont à encourager. Si vous permettez, peut-être parler de c'est quelle organisation là?
Ah oui, donc il existe des organisations, des ONG qui s'occupent de sensibilisation aux dangers des hydrocarbures. Et c'est déjà des structures là qui existent.
Oui, en principe, c'est au niveau de la FEC, au niveau de la Commission nationale de pétrole, qui pourrait être chaque fois organisée trimestriellement, ou peut-être des campagnes de sensibilisation au niveau de la télé, comme on fait avec le code de la route. Expliquer un peu quelques normes, et chaque fois peut-être avec des petits spots, ça pourrait énormément aider la population.
Absolument.
Mais à ce stade, la population est ignorante, la population n'a pas la matière.
Absolument. Mais ce qu'on voulait dire, par exemple, par rapport à ces organisations ONG, c'est que eux, étant sur terrain pour ce type de sensibilisation, nous pouvons en faire, donc former des formateurs. Comme ça, en leur donnant, à partir de nos experts, leur donner des outils nécessaires pour donner le maximum d'informations au plus grand nombre.
Ah, mais si déjà les adultes ont du mal à interpréter toutes ces indications, j'imagine, et c'est encore difficile pour les tout petits. Et c'est que la sensibilisation doit tenir compte de toutes les couches sociales et surtout des niveaux, disons, par rapport à l'âge aussi. Hein. Commenter avec les enfants, ça pourrait peut-être les aider à grandir et avoir une information très précise sur la question.
Correct, vous avez raison. En fait, à ce niveau-là, il y a trois d'action à prendre. Il y a un programme portant sur les véhicules et leur équipement, l'organisation de sensibilisation des collaborateurs, en particulier les chauffeurs ou les chauffeurs. Et puis il y a un deuxième axe, le programme d'amélioration des transports routiers des produits pétroliers. Et puis trois, ce que nous venons de dire ici, c'est le programme visant le grand public, avec des sensibilisations comme des campagnes de communication et des partenariats avec le pouvoir public ou des soins spécialisés. Et donc là, c'est...
Alors, nous avons un dernier auditeur qui, vraiment, s'intéresse à cette émission, Dossi Hussein, de Baraka. Bonjour, Dossi.
Oui, bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, moi, j'aimerais savoir, parce que nos invités viennent de nous dire, là, pour identifier carrément les véhicules qui ont pas les chiffres, parce que tout le monde ne peut pas dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de... mettre les balises ou soit des sirènes, parce que quand on attend à distance, comme les ambulances là, pour savoir qu'il y a un camion citerne qui arrive et que la population commence à prendre des dispositions, de rester à côté, parce que nos véhicules ici, vous voyez seulement, brusquement, les véhicules arrivent et ça passe. Donc il n'y a pas moyen de mettre des balises pour éclairer la nuit, ça c'est comme des ambulances, des sirènes à distance.
Voilà, alors, M. Georges, est-ce que vous partagez l'avis de Dossi Hussein, qui parle de... Il faut signaler, hein, parce qu'il faut alerter la population. Je sais pas moi, il y a alarme pour annoncer l'arrivée, par exemple, d'un véhicule transportant des produits dangereux.
Je crois que sa contribution est intéressante. Peut-être pas nécessairement sous forme de sirène, mais ce que nous retenons, c'est comment signaler la présence de ce risque potentiel roulant. Je crois que c'est ce qu'il faut seulement retenir. Nous retenons, nous prenons à cœur sa suggestion et nous allons essayer de l'intégrer pour voir justement comment répondre à cela.
Effectivement, dans certains pays, les camions citernes ont des gyrophares.
Voilà. Donc,
dans les pays africains, au Cameroun par exemple, les camions ont des gyrophares. Donc,
au niveau de la commission, il faut déjà y
penser. C'est retenu.
Voilà. Ben alors, une dernière question qui me vient à l'esprit. Aujourd'hui, nous rébarquons, c'est vrai, des stations d'essence qui sont construites, en tout cas à proximité de la population. J'ai encore un dernier cas dans la commune de Kinshasa. Sous Kassavubu, dans un environnement où la population, il y a une grande population, mais on met une station d'essence. Ben alors, si la population n'est pas préparée, nous risquons de nous retrouver un jour avec des accidents, des hydrocarbures.
Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ne se font pas dans les règles. Il faudra peut-être que l'autorité publique soit sévère dans l'attribution des autorisations pour ce type d'activité. Vous parlez de ça, mais moi j'ai plusieurs fois été choqué par le nombre impressionnant de stations-service qu'il y a à Goma. C'est-à-dire sur une route à un kilomètre, vous trouvez une trentaine, quarantaine de stations côte à côte. Alors, vous imaginez, alors là je reviens encore à ce que je disais, un litre d'essence qui donne 200 litres de vapeur, mais là ce n'est pas un litre d'essence, c'est 40 stations multipliées par la capacité des stations, multipliées par, et tout ça, sur un axe principal habité et tout, c'est fortement dangereux. Donc en fait, c'est dans l'attribution même des autorisations, et là ça va un peu au-delà de ce que nous pouvons faire, dans l'attribution des autorisations, on ne peut pas donner de
termes. Donc, je crois qu'à la longue, il faudrait qu'on assiste quand même la Commission nationale de pétrole.
Absolument.
Pour une prise de décision, peut-être pour autoriser ou accorder le permis d'exploitation dans les secteurs.
Absolument.
Il faudrait qu'on l'associe quand même.
Absolument. Et même pour ceux qui veulent faire cette activité, ils peuvent s'adresser à la FEC, à la Commission nationale de pétrolier, pour prendre conseil. On leur donnera des conseils en tant qu'opérateur en disant vous voulez faire cette activité, voilà ce qu'il faut respecter comme norme et donner toutes ces informations et beaucoup d'autres que nos experts peuvent mettre à l'ordre.
Donc, pour vous contacter, c'est toujours au niveau des FEC.
Au niveau de la FEC. Au niveau de la FEC nationale.
C'est sur l'avenue des aviateurs.
Ce sont vos voisins.
Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas moi si M. Honoré, je vais considérer ça comme le dernier mot pour M. Georges. Et M. Honoré, vous avez aussi un dernier mot?
Non, mais vous savez, le dernier mot, c'est que quand il y a accident, il y a toujours ce qu'on appelle un retour d'expérience. C'est-à-dire qu'il faut tirer les leçons pour éviter que cela revienne. Nous devons être conscients que dans notre pays, par exemple ici, au sud, les entrées de camions par Kasumbalesa, mensuellement on a plus ou moins 350 camions qui entrent. À l'est, si je prends au niveau de la frontière ouvrière à Kamanyola, c'est plus ou moins 50 camions citernes par mois. Au niveau des Ruzizi 2, c'est 60 camions citernes. Au niveau de Goma, dans les trois frontières, Bunangana, Ishasha et les grandes barrières, c'est plus ou moins 80 camions citernes. Au niveau de Beni, dans la frontière à Kassindi, c'est plus ou moins 45 camions citernes par mois. Et au niveau de Bunia, les camions qui entrent par Aru et Magui, c'est 50 camions. Donc, si vous voulez en synthèse, mensuellement, nous avons plus ou moins 600 camions citernes qui entrent dans notre pays. Et donc, 600 camions citernes, ça présente un enjeu sécuritaire important. Et donc, ce qui est arrivé à Sangay doit nous amener à mettre en place un programme de maîtrise des pertes liées aux accidents de circulation des camions pétroliers.
Merci beaucoup, M. Honoré. Nous remercions également Georges Moukoma, qui est le président de la Commission nationale des pétroliers. Merci d'être venu sur Capi et surtout pour éclairer la lanterne des auditeurs par rapport au transport de produits pétroliers. Quels sont les risques? Nous allons vous retrouver très prochainement, toujours dans le cadre de sensibiliser la population sur les mauvaises manipulations de produits dangereux et aussi comment éviter, quel comportement adopter pour éviter de se trouver victime donc de différentes tragédie comme on a connu à Sangay au sud Kivu. Une fois encore, merci et à très bientôt.
Nous vous remercions.
Merci.